الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الثاني والعشرون من شهر ذي الحجة عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثامن عشر من شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 24 septembre 2016 et nous sommes dans la 18e assise de l'étude du livre de l'unicité de Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Après avoir traité le sujet du sacrifice pour un autre qu'Allah, Azza wa Jal, et du sacrifice pour Allah dans un endroit où l'on sacrifie pour autre que lui, l'auteur, rahimahullah, passe à un nouveau chapitre et dit « Bab min ash-shirk an-nadhru li ghayrillah » Chapitre, c'est-à-dire chapitre suivant, fait partie du polythéisme de faire un vœu, de formuler un vœu pour un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Avec ce nouveau chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous parler d'une de ces formes de polythéisme majeur. Il s'agit ici du polythéisme majeur sans détail. On ne dit pas selon tel cas, non. Le vœu pour un autre qu'Allah, c'est du polythéisme majeur sans détail. Car faire un vœu est une adoration. Et vouer une adoration à un autre qu'Allah est du polythéisme majeur. Vous comprenez? Alors que quand on parle par exemple de « ittikhadhu ma laysa bi sababin sababa » prendre en cause quelque chose qui n'en est pas une, on parle d'une forme de polythéisme dans une des composantes de « rububiyya » de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, comme nous l'avons vu en détail dans les chapitres qui concernent ces sujets. Mais là, on parle d'une adoration qui est vouée à un autre qu'Allah directement. Lorsque c'est le cas, sans détail, il s'agit du polythéisme majeur. Donc l'auteur dit qu'il fait partie du polythéisme, c'est-à-dire majeur, de formuler un vœu pour un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cela nous amène à comprendre ce qu'on appelle an-nadhr, c'est-à-dire le vœu qui vient du verbe nadhara, yandhuru, formuler un vœu. Et à la base, dans la langue arabe, an-nadhr ou nadhara signifie la notion de la peur, la notion de la peur. Pour cela, vous trouvez dans Surat Al-Muddathir qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuhal muddathir, ô toi l'enveloppé, qum, lève-toi, fa anzir, et avertis. Ici, Allah azza wa jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les gens et de leur dire que s'ils continuent à commettre le polythéisme dans lequel ils sont, un châtiment d'Allah va s'abattre sur eux. Donc il y a la mention de la peur, n'est-ce pas? Fahuwa tahwif. Il s'agit de faire peur. Al-Inzar, ici dans le verset Andir, c'est-à-dire fait leur peur en les avertissant. Mais qu'est-ce que l'on retrouve dans le verbe Andir? Nadara. On retrouve ces trois lettres. Voici ce qui est voulu dans le sens linguistique. Dans la religion d'Allah, Azza wa Jal, an-nadhr a la définition suivante. Ijabul mukallafi ala nafsihi shay'an laysa wajiban fil asli taqarruban ila Allah. C'est-à-dire que l'individu responsable religieusement se rendre obligatoire quelque chose qui à la base ne l'était pas pour lui dans le but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous avez compris? L'individu responsable religieusement. Et l'individu responsable religieusement, c'est celui qui est doué de raison et qui est pubère. Car s'il n'est pas doué de raison, s'il n'est pas pubère, il n'est pas concerné par les obligations et interdit en religion. Donc, celui-là, c'est celui que l'on appelle en arabe, dans la religion, al-mukallaf. Les savants l'appellent al-mukallaf, c'est-à-dire l'individu responsable religieusement, c'est-à-dire une personne douée de raison ayant atteint la puberté. L'individu responsable religieusement qui se rend obligatoire quelque chose qui à la base ne l'est pas, comme le jeûne du lundi et du jeudi par exemple, ou toute autre adoration, une aumône parmi tant d'autres, cette personne va se rendre obligatoire cette chose qui à la base ne l'est pas. Dans quel but? Dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris cette définition? Donc à partir du moment où la personne s'impose et se rend obligatoire quelque chose qui ne l'est pas à la base, comme un jeûne, comme une aumône, comme la visite d'un proche à un moment parmi tant d'autres, ou d'autres choses encore, et dans le but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, cette chose qu'elle a faite, on l'appelle un vœu. Et cela devient valide quand on le prononce, quand la personne le prononce avec la langue. Ce n'est pas juste de penser à quelque chose, puis de se dire, je me suis rendu obligatoire telle et telle chose, je suis obligé maintenant de le faire. Et ça, c'est ce que l'on voit chez les gens malades atteints par l'waswasa. Et ils viennent souvent reposer la même question. J'ai dit que j'allais faire une salat à tel moment, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je suis dans le péché? Non. Parce que le vœu, il faut avoir l'intention. Au moment où tu dis je vais prier, par exemple, est-ce que dans ton intention, tu dis que tu t'es imposé de prier? Tu t'es rendu obligatoire par là de prier? Ou alors, tu t'es dit je vais prier et tu n'as pas eu l'occasion? Si c'est le deuxième cas, tu n'es pas concerné. Aussi, la formule, c'est de dire par exemple, Nazartu lillah, j'ai voué à Allah, salat raka'atayn, de faire deux raka'at, fil layl, dans la nuit. Tu as l'obligation de le faire. Tu dis, Nazartu lillahi, an asuma, khamsata ayyam min hadha shahr. J'ai voué à Allah 5 jours de jeûne pour ce mois. Tu es obligé de le faire. Et ça, on le retrouve dans Surat Maryam. Maryam alayhi salam a dit, quand Allah Azza wa Jalla lui a dit, Faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Dit, j'ai voué au tout miséricordieux un jeûne. Elle a fait un vœu, elle est obligée de le faire. De quel jeûne est-ce que l'on parle? Falan ukallim al-yawma insiya. Je ne m'adresserai à aucun humain. C'est-à-dire que le jeûne de la parole, s'abstenir de parler. Donc c'est ça qui est voulu par un nadr. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé un nadr? Parce que dans nadr, il y a la notion de peur, n'est-ce pas? Et les savants disent que celui qui formule le vœu, le fait parce qu'il craint, il a peur de rater cette chose qu'il veut faire, alors il se la rend obligatoire. Vous avez compris? Yakhafu an yafutahu shay. De peur de ne pas faire cette chose, il formule le vœu. J'ai entendu la semaine dernière, samedi dernier exactement, dans le dars du Cheikh Suleyman al-Rahayli hafidhahullah ta'ala, qui en ce moment enseigne le kitab ou tawhid, et le cours de la semaine dernière portait exactement sur le sujet de notre jour. Il a ajouté deux choses. Il a dit que l'on a appelé un nadr, où il y a la notion de khawf, de peur, parce que celui qui formule le vœu, en général, craint celui pour qui il a formulé le vœu. Donc lorsque tu formules un vœu pour Allah, tu crains Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, à partir du moment où il a formulé ce vœu, il craint de ne pas l'appliquer. Il craint de ne pas l'appliquer. Donc dans toutes les situations, dans le vœu, il y a la notion de la peur de quelque chose. Soit la notion de la peur d'Allah Azza wa Jal, ou la notion de la peur de ne pas pouvoir faire quelque chose, ou la notion de la peur, après s'être engagé de ne pas l'appliquer. Voici pourquoi on a appelé à Nadr, Nadr. Et c'est une adoration, mais il faut savoir que on n'encourage pas à le faire. Dans les textes, on n'encourage pas à faire le vœu. Au contraire, on voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple, dans un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i, jugé authentique par l'imam al-Albani, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wasallam, naha anil nadr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam a interdit de faire des vœux. وقال إنه لا يأتي بخير وقال إن النظر لا يأتي بخير et a dit le vœu n'amène pas le bien وإنما يستخرج به من البخيل et dans le sens du hadith que c'est l'avare qui fait le vœu. Et ce genre de texte a posé problème aux savants qui ont expliqué Kitab al-Tawhid, et pour la raison que d'un côté le vœu, c'est une adoration. De l'autre côté, on ne doit pas la faire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne nous encourage pas à faire le vœu. D'accord ? Certains ont divergé sur l'interdiction ici. Est-ce qu'il s'agit d'une interdiction formelle ou alors pour montrer que c'est détestable de faire cette chose ? Le cher Suleyman al-Ruhayli, Hafidhahullah, a pris l'avis de l'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui dit que faire un vœu est interdit. Muharram. C'est pour ça que les savants disent هذا الباب غريب في الشريعة. Il dit ce sujet-là est étrange dans la sharia pour les gens, mais dans la sharia tout est clair, n'est-ce pas? Et donc, ça c'est un point. Maintenant, les savants ont traité ce sujet, parmi eux le Cheikh Saleh Al-Sheikh, qu'Allah le récompense, où il a divisé le vœu en trois. Il a montré An-Nadr Al-Makruh, le vœu qui est détestable. Et il a dit, il s'agit du vœu où celui qui le formule émet une condition. Par exemple, « Oh Allah, si tu guéris mon fils qui est touché d'une maladie, je m'engage à jeûner 5 jours de ce mois pour toi. Oh Allah, si tu facilites ce que j'entreprends aujourd'hui et demain, je m'engage à sacrifier 5 moutons et les offrir aux pauvres. » Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une condition qui est émise. Cheikh Saleh Al-Sheikh dit, c'est de ça que l'on parle quand on dit que le vœu est détestable. Et c'est de ça que le prophète alayhi salatu wassalam a parlé dans ce genre de hadith où il dit de ne pas formuler de vœux. Ce genre de vœux, les savants l'ont appelé an-nadhru al-muqayyad. An-nadhru al-muqayyad. On pourrait le traduire par le vœu conditionné. Le vœu qui est accompagné d'une condition émise par celui qui le formule. Oh Allah, si tu me donnes telle chose, je fais telle chose. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il ressemble à un avare? Parce que c'est comme si qu'il ne fait des actes d'adoration que en échange, que si Allah lui donne quelque chose. Si tu me donnes cette chose-là, je fais. Donc si tu ne me donnes pas, je fais pas. Ce genre de vœu, on l'appelle un nadr al-muqayyad. Il y a l'autre vœu que l'on appelle un nadr al-mutlaq. Un nadr al-mutlaq, le vœu absolu. C'est celui qui n'est pas conditionné. C'est-à-dire que la personne dit, pour Allah, j'ai voué 3 jours de jeûne pour ce mois. Il n'y a pas de condition ici. Cheikh Saleh al-Sheikh dit, ce vœu-là n'est pas concerné par l'interdiction ou la réprobation. Vous avez compris ? C'est très important de bien le saisir. Ensuite, il y a an-nadhr al-muharram, le vœu interdit. Le vœu interdit, c'est le fait de dire, par exemple, je m'impose pour Allah, j'ai voué à Allah. Puis tu vas dire de faire quelque chose qui est interdit, de frapper au visage telle et telle personne parce qu'elle m'a fait de l'injustice, par exemple. Ou alors, j'ai voué pour Allah, et qu'est-ce que tu voues à Allah ? De faire une innovation, de réciter l'invocation qu'ils appellent, par exemple, Salatul Fatih, qu'on retrouve chez Tijaniya, dans le soufisme, pour Allah. Il n'a pas le droit de le faire parce que c'est une innovation. Ça, c'est le vœu interdit. Et enfin, il y a le vœu qui est du shirk. Et c'est celui dont nous parlons dans ce chapitre, qui est de formuler un vœu pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est répandu à très grande échelle. Au point où les gens disent « Jarrabna, jarrabna, nous avons essayé, ça marche. Tu as un problème, ton épouse n'arrive pas à être féconde, avoir des enfants, tes enfants sont handicapés, tu n'as pas réussi à gagner dans ton commerce, tu veux guérir de la maladie. » Ils disent هذا المزار وهذا الضرير, ce mausolée, ce lieu de visite où il y a un tombeau et quelqu'un enterré par exemple, يقبل النظر, accepte le vœu. Qu'est-ce qu'ils entendent par là quand ils disent de telles paroles? Ils disent ça marche ici. On l'a essayé, ça marche. Résultat, ils prennent leur sac et ils voyagent. Et ils vont dans la tombe de, par exemple, Sitt al-Nafisa, ça c'est au Caire en Égypte, ou alors Sidi Majdoub au Maroc, ou Sidi Abdel Qadir en Algérie, ou alors Ahmadou Bamba au Sénégal, ou alors Ahmad Tijani au Maroc, à Fès, et bien d'autres encore. Et ils disent, va là-bas et fais un vœu pour la personne qui est enterrée dans ce lieu, et tu verras, nous avons essayé, ça a marché. Les ulama de la sunna ont noté que il est possible qu'Allah Azza wa Jal décide d'éprouver ses serviteurs. Comment ? Ils vont dans cet endroit et ils font le vœu. Ils disent par exemple, oh Sidi Majdoub, oh Sidi Majdoub, c'était quelqu'un de bien, ensuite il est mort et on l'a adoré dans sa tombe. Pareil, Sitt Nafisa, c'est une femme pieuse qui faisait partie de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, qui était connue, etc. Elle est morte, enterrée au Caire, et maintenant les gens vont jusqu'à là-bas pour faire des vœux auprès de sa tombe ou pour lui demander des choses en dehors d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'ils disent ? Laka alayya an af'ala kada wa kada. Pour toi, je m'impose telle et telle chose. Nadartu laki ya sit nafisa. Oh nafisa, j'ai formulé un vœu pour toi de faire telle et telle chose. Hada shirkun akbar. C'est de la mécréance majeure et du polythéisme majeur. Et celui qui agit ainsi sort de l'islam. Ça, c'est aqidatu ahl sunnah, la croyance des gens de la sunnah dans ce domaine et dans ce sujet, comme l'a noté le shaykh Salih al-Fawzan, hafidahullah, ici dans son commentaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on le fait. Wal'iyadu billah. An-nadhru ibada. An-nadhr, le vœu, est une adoration. Et l'adoration, on ne l'avoue qu'à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Quel est le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre Kitab al-Tawhid? En d'autres termes, pourquoi est-ce que l'auteur a mentionné ce chapitre dans son écrit? La réponse est très claire. À force de l'étudier, vous avez l'habitude des liens entre, au moins, des liens entre les chapitres et le livre. Ici, an-nadhru li ghayrillah, formuler un vœu pour un autre qu'Allah, est une forme de polythéisme majeur. Et c'est donc pour cette raison que l'auteur l'a cité dans son livre, parce que il nous enseigne le tawhid par son contraire. comme nous l'avons vu. Maintenant, quel lien il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents de Kitab al-Tawhid? Quels sont les chapitres précédents? Al-Tabarruk bi-ghayrillah, la demande de baraka à un autre qu'Allah. Al-Dhabh li-ghayrillah, le sacrifice pour un autre qu'Allah. Et toutes ces adorations avec an-nadhr li-ghayrillah, le vœu pour un autre qu'Allah, sont des formules de shirk apparentes. Et l'auteur a voulu, avec ces chapitres, montrer parmi les formes de shirk celles qui sont apparentes. Vous comprenez? Et ici, il s'agit bien sûr du shirk al-akbar, comme nous l'avons dit. Lorsque l'auteur dit mina shirk, fait partie du polythéisme, c'est-à-dire que c'est une de ses formes, mais il ne représente pas tout le polythéisme, n'est-ce pas? D'ailleurs, la preuve en est le livre que nous sommes en train d'étudier. Ainsi, celui qui formule un vœu pour un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, aura commis cet ignoble crime qui est de donner un égal à Allah, tabaraka wa ta'ala. Notez que certains savants ont ajouté dans la définition du nadr, parmi eux le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, que il ne s'agit pas que de quelque chose qui à la base n'est pas obligatoire. Pour eux, même ce qui est obligatoire, on peut formuler un vœu. Et dans ce cas-là, cette chose obligatoire deviendra doublement obligatoire. Par exemple, Salatul Fajr est une obligation. La personne qui dit Lillahi alayya an usalliya salat al-fajr, je m'engage, je voue à Allah le vœu d'accomplir la prière du Fajr. Ils ont dit, la prière du Fajr à la base est obligatoire, et en même temps, parce qu'il a fait le vœu, elle est doublement obligatoire, c'est-à-dire que s'il la délaisse, il est doublement dans le péché. Ça, c'est un avis qui a été cité. Al-Sheikh Suleyman, hafizahullah ta'ala, et ici Al-Sheikh Salih al-Fawzan, disent que le vœu, c'est ce qui à la base n'est pas obligatoire. Mais je vous dis pour que vous puissiez le savoir. Taïe. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a fait les éloges, comme l'a mentionné le Cheikh Abd al-Razak al-Badr, a fait les éloges de ceux qui accomplissent leurs vœux. Regardez la différence. Il y a deux choses à prendre en compte. La formulation du vœu, on en a parlé. Et la deuxième chose, l'accomplissement du vœu. Même si la personne formule un vœu, et qui fait en faisant quelque chose de détestable, comme nous l'avons cité au début du cours, à partir du moment où elle a formulé ce vœu, et pour ceux qui voient carrément que c'est interdit, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, disent quand même que dès qu'elle a formulé ce vœu, l'accomplissement du vœu, c'est une autre chose. C'est une obligation. Pourquoi les savants n'encouragent pas à formuler le vœu? Je pense qu'avec un peu de réflexion, vous trouverez la réponse. Parce que la personne va s'imposer quelque chose. Cheikh Abd al-Razak al-Badr a dit, il y a quelqu'un qui va dire, « Oh Allah, si tu me donnes un enfant, si tu me fais don d'une descendance, je sacrifierai pour toi 50 chameaux. » Au moment où elle prononce ce vœu, elle ne fait pas attention à tout ce que cela amène comme dépense d'argent et comme coût onéreux. Puis lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui donne un enfant, cette personne regarde et voit le prix de 50 chameaux, c'est énorme. Elle ne peut pas le faire. Résultat, elle va tomber dans le péché, alors qu'à la base ce n'était pas obligatoire pour elle. Pour ça, les savants disent qu'il ne faut pas formuler un vœu. Il suffit de faire. Comme ça, si tu fais, alhamdoulilah, tu es récompensé. Si tu ne fais pas, tu n'es pas dans le péché. Voilà pourquoi le vœu n'est pas quelque chose qui est encouragé. Mais, lorsque tu as formulé le vœu, tu te dois de l'accomplir. Et Allah a fait les éloges de ceux qui accomplissent le vœu. Pourquoi ? justement parce que à partir du moment où ils accomplissent le vœu malgré peut-être la difficulté de cette action, ça montre qu'ils ont fait la chose pour Allah Azza wa Jalla. Vous avez compris? Donc celui qui accomplit le vœu, il est loué par Allah dans le Coran. Aussi Allah Tabaraka wa Ta'ala a, comme nous allons le voir inshallah dans le deuxième verset de ce chapitre, a mentionné, a rappelé le fait qu'il sait, qu'il est connaisseur du vœu que son serviteur a formulé. Et après, on va vous expliquer quelque chose. Également, Allah Azza wa Jal a ordonné, Tabaraka wa Ta'ala, d'accomplir le vœu après l'avoir prononcé. Il n'a pas parlé de la prononciation, la formulation du vœu, mais de l'accomplir après qu'on l'a prononcé, après qu'on s'est engagé. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, a dit: والدليل على أن الوفاء بنذر الطاعة عبادة. La preuve que l'accomplissement du vœu, qui est une obéissance, le vœu d'une obéissance, celui qui s'engage à faire quelque chose qui est une obéissance, c'est une adoration. La preuve que c'est une adoration, أن الله سبحانه ذكر أن من صفات الأبرار. Allah Azza wa Jalla a mentionné parmi les caractéristiques des pieux serviteurs أنهم يوفون بالنذر. يوفون بالنذر, comme on le voit dans le premier verset ici. يوفون بالنذر, ils accomplissent leurs vœux, c'est-à-dire ils mettent en pratique leurs vœux, ils tiennent leurs engagements dans le vœu. Puisqu'Allah Azza wa Jalla a fait leurs éloges, on voit que le vœu est une adoration. وأمر بالوفاء به, بل Allah Azza wa Jalla a ordonné d'accomplir, de tenir cet engagement. Et qu'ils accomplissent leurs engagements. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man nadhara an yuti' Allah falyuti'. Celui qui a voué à Allah une obéissance, qu'il lui obéisse. Donc toutes ces choses-là nous montrent que le vœu est une adoration. Wa idha kana kadhalik, et s'il en est ainsi, le vœu est une des catégories de l'adoration. Car l'adoration, comme elle a été définie par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, min al aqwali wal a'mal, comme parole, comme acte, al-zahira wal batina, apparent ou caché, les actes du cœur et les actes des membres. Les actes du cœur, la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, l'espoir en Allah, la sincérité envers Allah. Et les actes des membres, la prière, la zakat, le jeûne, etc. Toutes ces choses-là qui sont aimées et agréées d'Allah sont des adorations. Et tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de faire dans le Coran est une adoration. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne d'accomplir le vœu. Ainsi, c'est une adoration. Si c'est une adoration, c'est là qu'on veut en venir. Le vouer à un autre qu'Allah est une forme de shirk akbar, est une forme de polythéisme majeur. Est-ce que cela est clair? Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce point-là ou cette catégorie-là? Car à son époque, beaucoup de gens le pratiquaient. Il l'a vu, il l'a entendu. Beaucoup de gens allaient formuler des vœux pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des gens, là il va nous donner des exemples, hafidhahullah, de ce que font des gens aujourd'hui. An-nadhru li ghayrillah min al-jinn, par exemple. Il y a des gens qui formulent des vœux pour les djinns, pour les démons, wal-iyadu billah. Ou les awliya as-salihin, ou les ashab al-qubur, ou pour les habitants des tombes, ce qu'ils appellent les saints, etc. Tout cela, c'est de l'adoration d'autre qu'Allah. Et on le voit énormément. Ils disent, va dans la tombe de un tel et un tel. Ils disent, turidul matar, tu veux la pluie, tu veux que la pluie tombe. On a essayé. Va dans la tombe de tel et tel. personne sainte et formule un vœu. « Oh, toi, je m'engage pour toi, je fais le vœu, je te formule un vœu, je te voue telle adoration si la pluie tombe. » Wal'iyadu billah. Ça, c'est du shirk akbar. C'est du shirk akbar dans l'uluhiyya, dans l'uluhiyya, l'adoration. Et comme tawhid al-uluhiyya, comme nous l'avons dit, mutadamminun li tawhid al-rububiyya, comprend en lui le tawhid de la seigneurie. Donc le shirk dans l'uluhiyya comprend le shirk dans al-rububiyya. Wal'iyadu billah. Donc c'est du shirk dans l'uluhiyya et aussi dans al-rububiyya. Wal'iyadu billah, c'est quelque chose d'extrêmement grave et détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset cité par l'auteur rahimahullah ta'ala, Allah azza wa jalla dit: yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Et dans ce verset de suratul insan, l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens qu'il a qualifiés comme étant al-abrar. Al-abrar, qui sont les habitants du paradis, les gens pieux qui adorent Allah, les gens bons qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait leurs éloges dans le contexte des versets. Parmi les éloges, yufuna bin nadr. Ils accomplissent leurs vœux. Ils tiennent leurs engagements avec leurs vœux. Donc, puisqu'Allah Azza wa Jal les a qualifiés comme abrar, des gens pieux et vertueux, bons, et pour les raisons pour lesquelles ils sont bons, c'est que ils accomplissent leurs vœux. Donc, accomplir le vœu est une adoration. Formuler le vœu est une adoration. On ne doit donc le faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Comment?
Et si par exemple...
Non, pas de questions pendant le cours. Après, Inch'Allah. Barakallah fikum. Pourquoi pas de questions pendant le cours? Parce qu'il peut arriver que ça me perturbe et que j'oublie ce que je voulais vous dire. Jazakumullahu khayran. Tayyib. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, a fait les éloges de ceux qui font, accomplissent leurs vœux. Alors, faire un vœu pour un autre qu'Allah Azza wa Jal est une forme de polythéisme. Wal'iyadu billah. Est-ce que ceci est clair? C'est clair? Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, Allah Azza wa Jal a dit: وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Le sens rapproché du verset: quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Subhanahu wa ta'ala. Voici une règle. Comprenez-la. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran fait mention de son savoir, du fait qu'il sait quelque chose, après avoir cité une bonne action, c'est pour dire qu'il récompensera la personne qui fait cette action. Quand Allah Azza wa Jal fait la mention de son savoir après avoir mentionné un péché, c'est pour que l'on comprenne qu'il châtie celui qui fait ce péché. Vous avez compris? Ce n'est pas vainement qu'Allah Azza dit Allah le sait. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Allah le sait. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Allah le sait. Allah Azza wa Jal l'a consigné, l'a gardé, et il va récompenser ceux qui mériteront alors la récompense pour cet acte. Allah le sait, quand il s'agit d'un péché, il l'a consigné, il l'a gardé, et si les personnes ne s'en repentent pas, elles risquent de se faire châtier par Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que l'on comprend alors? On comprend que quand Allah Azza wa Jal nous dit qu'il le sait, ça veut dire qu'il récompense ceux qui agissent ainsi. S'il récompense ceux qui agissent ainsi, cet acte est une
adoration.
Si cet acte est une adoration, on n'a pas le droit de le vouer à autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que l'auteur a cité ce verset dans Kitab al-Tawhid, dans ce chapitre de Kitab al-Tawhid. Et c'est ce qu'a dit le Cheikh Saleh al-Fawzan. Là, ce que je vous ai cité, c'est ce que j'ai pris du Cheikh Abdel Razak. Et c'est à peu près pareil de ce qu'a dit Cheikh Saleh, حفظه الله تعالى lorsqu'il dit ولازم ذلك أن يجازيكم عليه. Et cela implique, c'est-à-dire l'information donnée dans ce verset qu'Allah le sait, cela implique qu'il va vous rétribuer pour cet acte. وهذا من باب الحث على الوفاء بالنذر. Et à travers cela, on nous encourage à accomplir nos vœux. Donc Allah Azzajal dans ce verset a encouragé à faire des dépenses, des aumônes, tout comme il a encouragé à accomplir le vœu et tenir cet engagement en disant qu'il le sait, subhanahu wa ta'ala. Le hadith fi sahih, sahih muslim, d'après Aisha radiyallahu ta'ala anha, anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Dans le sens du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: quiconque a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Et quiconque fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne le fasse pas. C'est pour ça que les savants ont dit il y a deux sortes de vœux, nadhr al-ta'a et nadhr al-ma'siyah. Le vœu qui est une obéissance et le vœu qui est une désobéissance. Et on en a parlé. Le vœu qui est une obéissance, lorsque la personne voue à Allah, tabaraka wa ta'ala, un acte aimé d'Allah, azza wa jal. Et le vœu qui est une désobéissance, lorsque la personne voue à Allah, azza wa jal, quelque chose qui est interdit. Que ce soit une innovation, que ce soit un péché, ou toute chose qui est interdite par Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous montre très clairement que le vœu est une obéissance, le vœu qui nous concerne, le vœu qui est bon, le vœu qui est une bonne action. Il est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute obéissance à Allah est une adoration. Et vouer l'adoration à autre qu'Allah est une forme de shirk. Voilà pourquoi le shirk a cité ce hadith. Rahimahullahu ta'ala. Man nadhara an yuti' Allah, quiconque a fait un vœu pour Allah, Cheikh Al-Fawzan a dit bi siyamin, bi hajjin, bi amra, bi sadaqa, bi i'tikaf ou bi ghayri dhalika min anwa' at-ta'at, que ce soit une prière, un jeûne, hajj, amra, une sadaqa, une aumône, la retraite à la mosquée ou tout autre acte d'obéissance et d'adoration, falyuti'hu, qu'il l'applique, qu'il tienne son engagement, il doit le faire. Donc ça montre qu'à partir du moment où tu as formulé un vœu et ce vœu est une adoration, une obéissance, tu as l'obligation de tenir ton engagement. Tu t'es imposé quelque chose, tu dois le respecter. Sinon, il y a des règles, il y a des expiations. Et ce n'est pas le sujet. Nous, on parle ici du vœu comme adoration. Quant aux règles de jurisprudence du vœu, c'est dans les livres de jurisprudence qu'elles s'étudient. وَمَنْ نَظَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهِ فَلَا يَعْصِي. Et quiconque a voué à Allah une désobéissance, qu'il ne lui désobéisse pas. Al-Fawzan, حَفِظَهُ اللَّهِ, a dit comme celui par exemple qui a voué à Allah de rompre les liens de parenté avec les siens, les gens de sa famille. Et il a voué à Allah Azzajal de mettre un terme à sa relation avec son père, sa mère, son frère, sa sœur. Ça, c'est un vœu qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ou le vœu d'assassiner quelqu'un, et toutes ces choses-là. On ne doit pas faire ce genre de choses. Cheikh Al-Fawzan a dit, et entre dans cela en premier lieu, le vœu qui est du shirk, C'est une interdiction formelle. C'est du polythéisme, comme voir formuler le vœu à une créature en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit donc que cette action est une adoration et qu'on ne doit l'avouer qu'à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que s'achève l'étude de ce chapitre. Après celui-ci, l'auteur rahimahullah ta'ala passe au chapitre suivant. Bab min ash-shirk al-isti'adatu bi ghayrillah. Chapitre suivant fait partie du polythéisme. Demander la protection à un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Demander la protection à un autre qu'Allah. Ce qu'on appelle en arabe al-isti'adatu. Et le verbe est ista'adha. Et ista'adha dans la langue arabe, c'est-à-dire talab al-awda. Demander cette chose que l'on appelle al-awd. Al-awd. Le fait de demander al-awd qui est la protection contre un mal que l'on appréhende. C'est ça que l'on appelle al-awd. Lorsque tu dis a'udhu billahi, c'est-à-dire que tu demandes à Allah sa protection contre quelque chose. C'est pour ça que, à la base, ce qui est al-awd, dans la langue arabe, à la base, ça peut être un abri. Par exemple, parmi les noms, les synonymes de al-bayt, qui est la maison en arabe, ma'ad. Ma'ad, c'est un abri. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé ma'ad comme cela? On retrouve ces lettres-là parce que c'est une protection, l'abri. N'est-ce pas? Ça te protège. Ici, on parle de demander al-awd, et al-awd, c'est la protection contre un mal. Daf' al-dur, le fait de repousser un mal. Ou daf' al-makruh, ou repousser quelque chose de détestable. C'est ça que l'on appelle al-awd. C'est une adoration. C'est une adoration de demander la protection. Mais pas dans tous les cas. Dans certains cas, il est permis de demander la protection à une créature. Et ça, il faut le savoir. Si trois conditions sont réunies, tu as le droit de demander la protection à une créature. Ces conditions sont les suivantes. Que cette créature, cette personne, soit vivante. Deuxièmement, qu'elle soit capable de te protéger. Troisièmement, qu'elle soit présente lorsque tu lui demandes cette protection. Un exemple pour illustrer cela. Un agresseur corpulent, violent, terrifiant, se tient debout devant son éventuelle victime. Et cette victime qui voit son agresseur devant tourne sa tête à droite et à gauche quand elle voit à ses côtés quelqu'un qui est encore plus fort et qui est là devant elle. A-t-elle le droit de se cacher derrière lui? A-t-elle le droit de lui demander « Protège-moi, je cherche refuge derrière toi contre l'agression de cet oppresseur ?» Bien sûr que oui. Est-ce qu'elle aura commis du shirk? Bien sûr que non. De quoi est-ce que l'on parle alors quand on dit qu'il s'agit de shirk billah azza wa jal? On parle de demander la protection à un autre qu'Allah, que cet autre soit mort ou alors incapable de nous donner cette protection ou alors absent. Des exemples pour illustrer cela. Le mort. Certains disent « Ô messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le prophète est mort. Allah azza wa jalla dit dans le Coran « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun » Tu es voué à la mort. Ils le sont aussi. Il est mort, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr radiyallahu anhu a dit « Fa'inna Muhammadan qad mat » Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Muhammad est mort, alayhi salatu wassalam. La personne est en danger. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Ya Muhammad, a'idni. Ô Muhammad, ya Rasulallah, messager d'Allah, protège-moi du mal. Un exemple encore plus clair des gens qui sont sur le point de couler en bateau, en mer. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ya Bamba, ya Majdoub, ya Nafisa, ya Abd al-Qadir, ya. Et ils appellent autre qu'Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'ils leur disent ? A'idni min al-gharaq. Protège-moi de la noyade. Ça, c'est l'isti'ada bil-mayyit. Demander la protection aux morts. Shirk akbar. Wal-iyadu billah. Ou alors la personne est vivante, mais elle est incapable. A'idni min al-shaytan al-rajim. Ils vont voir leur gourou, il est vivant, il leur embrasse les pieds, puis il leur demande à ces gourous de les protéger contre le shaytan, ou de protéger leurs enfants contre le shaytan. Shirk. Ou alors demander à quelqu'un qui est absent, lorsqu'ils invoquent, et ils disent, il nous entend, il peut nous entendre, wal-iyadu billah. Voici l'isti'adatu bi ghayrillah, et voici cette forme de shirk akbar qui est répandue dans la terre d'Allah, wal-iyadu billah. Et c'est vraiment quelque chose de très grave, parce que ça montre que ces gens qui prononcent ces paroles ont un cœur habité par autre qu'Allah, ou alors attaché, une parole plus précise, attaché à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou habité par l'amour, la crainte d'autre qu'Allah. C'est ça que je voulais dire. Quel est le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre Kitab al-Tawhid? La réponse est claire. Vous avez maintenant l'habitude. Demander cette protection à un autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est une forme de shirk. Et l'auteur l'a cité pour montrer que le Tawhid, c'est son contraire. Quel est le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents? Dans les chapitres précédents, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite, comme nous l'avons dit, des formes de shirk akbar apparentes. N'est-ce pas? Les formes de shirk akbar apparentes se divisent en deux. Qawli wa fi'li. Verbal et physique. Il y a des formes de shirk verbal. Ce sont juste des propos que tu dis. Et ce chapitre-là, Al-Isti'adatu bi ghayrillah, et le précédent, An-Nadhru li ghayrillah, sont des formes de shirk verbal, oral, que l'on fait avec la langue. Et celles qui sont juste avant sont des formes de shirk physique. Al-Dhabhu li ghayrillah, Tabarruk bi ghayrillah, sacrifice pour un autre qu'Allah, demander la baraka, se frotter dans les murs, autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela est clair? Lorsqu'il dit mine ash-shirk, fait partie du polythéisme, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une des formes de polythéisme. Et ce n'est pas tout le polythéisme. Donc, ces conditions que nous avons citées, en réalité, on les applique pour toute forme d'invocation. Parce que l'isti'ada, c'est une forme d'invocation. Mais de manière générale, invoquer un autre qu'Allah, solliciter plus précisément, un autre qu'Allah Azza wa Jal, si cet autre est vivant, présent et capable, ce n'est pas du shirk. C'est pour ça que Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, a débattu, ou il n'a même pas débattu, il a reçu la visite de quelqu'un du groupe de Jama'atou Tablir, qui a voulu débattre avec lui. Et le cheikh lui a dit, ma hukmu du'a ghayrillah. Quel est le jugement de solliciter un autre qu'Allah? L'homme lui a dit, hala shirk. Ça c'est du polythéisme. Le cheikh lui a dit, va apprendre ta religion. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû dire, si cet autre est vivant, présent et capable, il n'y a pas de problème. Tu as le droit d'appeler quelqu'un, de lui demander de l'aide. Tu as le droit d'appeler quelqu'un, de lui demander de te protéger. Tu as le droit d'appeler quelqu'un, de lui demander un besoin qu'il est capable de te donner. Mais quand est-ce que c'est du shirk? Si tu implores un mort, ou si tu demandes à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas faire, ou si tu demandes à celui qui n'est pas là, qui est absent. Tout ça, c'est là que c'est du shirk. C'est ce qui nous concerne ici. Le shirk Salih al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, a dit « وَهَذَا كَالْأَبْوَابِ الَّتِي قَبْلَ فِي بَيَانِ يَنْوَعِ الشِّرْكِ الَّتِي يُمَارِسُهَا بَعْضُ النَّاسِ فِي مُخْتَلَفِ الْأَزْمَانِ وَلَا تَزَالُ تُمَارَسُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ » Ce chapitre, comme ceux l'ayant précédé, traite de ces catégories de polythéisme qui sont tant pratiquées par bon nombre de gens dans les époques diverses. Depuis les premiers jours jusqu'à maintenant, on trouve des gens qui le font. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ Et les gens ne cessent de les faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et beaucoup sont ceux qui le font. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ نَوَعِ الْعِبَادَةِ Et c'est une catégorie d'adoration. لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ وَدَفْعَ الشُّرُورِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Car nul autre qu'Allah ne peut repousser la nuisance ou le mal. فَكُلُّ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَطْلَبُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ Toute chose que seul Allah est capable de faire, on ne doit la demander qu'à Allah. Subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ طُلِبَ مِنْ غَيْرِهِ كَانَ ذَلِكَ شِرْكًا Et si cette chose que seul Allah est capable de faire est demandée à un autre que lui, cette demande est une forme de polythéisme. هذا وجه كون الاستعادة بغير الله من الشرك. C'est pour cette raison que demander la protection d'un autre qu'Allah est une forme de polythéisme avec les détails que nous avons vus. Ensuite, le Cheikh Hafidhahullah a cité quelques versets pour montrer que c'est une adoration, car Allah Azzajal l'a ordonné. Il nous a ordonné de lui demander sa protection dans bon nombre de versets, parmi lesquels sa parole. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أعوذ dit je cherche la protection, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube Al-Falaq et je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes رب الناس سبحانه وتعالى puis il a cité d'autres versets. Le premier verset qui a été cité par l'auteur رحمه الله تعالى dans surat al-jin, Allah Azza wa Jal dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُهُمْ رَهَقًا Le sens rapproché du verset Or, il y avait parmi les hommes des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. De quoi est-ce que Allah Azza wa Jal nous parle ici dans ce verset? Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous répond et nous dit qu'il s'agit ici de personnes qui partaient en voyage à l'époque anté-islamique. Et quand ils voyageaient, ils passaient par des vallées, ils traversaient des vallées. Et quand ils arrivaient dans ces vallées, ils craignaient le mal des djinns de cette vallée. Wal'iyadu billah. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient dans leurs invocations, A'udhu bi sayyidi hadha al-qawm, A'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min sufaha'i qawmi. Je cherche la protection auprès du maître de cette tribu, car les djinns sont des tribus, contre le mal contre le mal des faibles d'esprit parmi eux, ou des gens mauvais, des gens qui veulent nuire. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, il y a beaucoup de djinns ici et on doit demander la protection contre ces djinns. Il ne l'a demandé bien sûr pas à Allah, il l'a demandé au maître des djinns. Et il disait, oh toi le maître des djinns, je te demande de me protéger contre le reste des djinns. quel fut le résultat? Allah Azzajal a dit Fazaduhum rahaqa. Cela n'a fait qu'accroître leur détresse. Wal'iyadu billah. Donc leurs problèmes en réalité n'ont fait qu'augmenter. Cheikh Salih al-Fawzan a dit Zad al-jinnu l'insa rahaqan ay khawfa. C'est-à-dire, les djinns ont fait accroître aux hommes leur peur. Fal-jinnu tasallatu ala l'ins lamma ra'awhum ya'uduna bihim. وزادوهم خوفا وقلقا وأعجبوا بأنفسهم وقالوا إننا أخفنا الإنس وصاروا يستعيذون بنا. سبحان الله. Quand les djinns ont vu que les hommes leur demandaient par crainte des djinns, protégez-nous du mal de votre peuple, qu'est-ce que les djinns ont fait? Ils se sont dit, les hommes ont peur de nous. Ils leur ont fait encore plus peur. Et ils ont été épatés. Ils se sont dit, on a réussi à faire craindre l'homme. Donc, ça s'est retourné contre eux. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est ce que l'on voit chez le mushrik. Le mushrik dhalil. Le polythéiste, il est tout le temps humilié. Celui qui craint un autre qu'Allah, comme on doit craindre Allah, Azza wa Jal, il est tout le temps perdu. Il a peur de tout. Il craint tout. Il est habité par le wasawis, il ne dort pas la nuit, il craint. Regardez, tous ces gens qui font du shirk avant de dormir, ils n'arrivent pas à dormir. Ils font du shirk pour se protéger. Dans certains pays, ils mettent un couteau, par exemple, dans de l'aluminium. Et ils le mettent en dessous de l'oreiller et ils dorment. Et ne t'inquiète pas, le djinn de la vallée, les djinns du village ne rentreront pas chez toi. Et ces gens-là ne trouvent pas le sommeil. Et ça, c'est le ma'na, le sens de la parole, que leur peur, elle a grandi en réalité. Ils disent avant de dormir, porte le talisman, l'amulette, le porte-bonheur, le gris-gris. Et ils le mettent. 1, 2, 3, à la fin de sa vie, tout son corps, il est étranglé par les gris-gris. Il a tout le temps peur. Fazaduhum rahaqa. C'est ça le sens du verset. Au lieu de demander à Allah, tabaraka wa ta'ala, tu demandes à une créature faible. Tu es parti demander un bout de ferraille. Tu l'as mis dans de l'autre ferraille, l'aluminium. Et tu l'as mis en dessous d'un tissu, l'oreiller. Ensuite, tu as posé ta tête dessus. Et ça va te protéger des autres créatures. Délaisse toutes ces créatures et demande à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal guide les musulmans. Parce que la communauté... Non, on ne dit pas la communauté tout entière est perdue, mais beaucoup des membres de la communauté sont dans l'ignorance. Et à cause de cette ignorance... ils font des choses qui peut-être à la base ne voulaient pas faire. Peut-être que si tu interroges l'un d'entre eux, il te dit « je ne veux pas faire du shirk ». Non, mais il croit que ce qu'il fait partie de la religion. Et c'est à cause des prêcheurs à l'égarement, des prêcheurs au shirk. Et il y en a tellement. Wal'iyadu billah. Et cela montre le besoin qui se fait grand d'apprendre le tawhid et de le propager et de réfuter les polythéistes, les associateurs et leurs ambiguïtés encore plus faibles que l'étoile d'araignée, comme Allah a dit dans Surat Al-Ankabut. Donc il est interdit d'agir ainsi, et on a compris le sens du verset. Ensuite, l'auteur a cité rahimahullah un hadith. Et dit عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا. Elle dit, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire, quiconque fait halte dans un endroit, فقال, puis dit, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Je cherche la protection d'Allah par les paroles, par ses paroles parfaites contre le mal de ce qu'il a créé, لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. Aucun mal ne le nuira jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Je cherche la protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé. Aucun mal ne le touchera jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et bien sûr, dans la religion, quand on nous interdit quelque chose, on nous donne l'autre chose. On nous a interdit de demander la protection à autre qu'Allah, Azza wa Jal. On nous enseigne comment demander alors la protection en répétant ces paroles. Lorsque l'on fait halte dans un endroit, qu'est-ce que cela veut dire ? Cheikh Abdelrazak a dit, ça peut être lorsque tu entres dans une maison dans laquelle tu vis, ou dans une habitation dans laquelle tu vas rester un temps déterminé, ou alors lorsque tu fais halte dans un endroit, par exemple l'aire de repos, tu es en voyage et tu t'arrêtes dans une aire, ou alors tu marches, tu t'arrêtes dans un endroit. Toutes ces occasions sont des moments propices pour prononcer ces paroles et dire « Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. » Qu'est-ce qui est voulu par « Kalimatullah » par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a deux choses quand on dit les paroles d'Allah. Le Coran, ce qu'on appelle « Kalimatu shar'iyya » et les paroles qu'il prononce pour décréter ce qu'on appelle al-kalimatu al-qadariya ou alors al-kalimatu al-kawniya. Et ça, on l'a déjà étudié dans un chapitre. Vous vous en souvenez ? Réfléchissez. Dans un chapitre. Wa inna Isa ibn Maryam, Abdullah wa Rasuluh, wa ruhun alqaha ila Maryam. Naam. Wa kalimatuhu. On a expliqué ici qu'est-ce que voulait dire Kalimatullah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la même chose ici. Cheikh Salah al-Fawzan a dit huwa kalamuhu al-munazzal subhanahu wa ta'ala ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Coran, la parole d'Allah azza wa jal. Wa l'isti'adatu bil Coran mashru'a, et chercher la protection par le Coran est quelque chose de prescrit, de légiféré. Pourquoi ? Il est anna al-Qur'an kalamullah, fal-isti'adatu bil-Qur'an isti'adatun bi sifatin min sifatillah wa hiya al-kalam wa laysat isti'adatan bi makhluq. Demander la protection auprès des paroles parfaites d'Allah azza wa jal. Les paroles d'Allah azza wa jal ne sont pas créées, n'est-ce pas ? Donc on n'a pas demandé la protection à une créature. Et c'est pour cela que les savants ont dit, comme a dit Cheikh Al-Fawzan ici, les savants de la Sunna ont utilisé ce hadith comme argument pour répondre aux Jahmiyyah et aux Mu'tazila, de sectes qui disent que le Coran est créé. Yaquluna inna al-Qur'ana makhluq. La preuve qu'ils sont dans le faux, c'est ce hadith. Car si le Coran était créé, demander la protection chez une créature, c'est du shirk chez Allah Azza wa Jal. Allah l'a interdit. Ici, le prophète nous dit de demander la protection par les paroles parfaites, auprès des paroles parfaites d'Allah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous demander de faire du shirk ? Non. Que dire alors ? Que demander la protection auprès des paroles parfaites d'Allah Azza wa Jal en prononçant ces paroles-là, ce n'est pas du shirk. Et c'est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que veut dire at-tammat, parfaite? En quoi est-ce qu'elles sont parfaites? Ay fiha as-sidq wal-adl. C'est-à-dire que dans les paroles d'Allah azza wa jalla, il y a deux choses: la véracité et la justice. Non, la justice. La justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. les paroles de ton Seigneur ont été parachevées avec véracité et justice. Les savants ont dit ay sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. La véracité dans les informations, elles sont toutes véridiques, et la justice dans les règles. Donc dans les paroles d'Allah Azza wa Jal, il y a la véracité dans les informations et la justice dans les ordres et les interdits. Allah Azza wa Jal n'opprime aucunement sa créature, subhanahu wa ta'ala. Et les paroles d'Allah ne sont absolument pas sujettes à une quelconque défaillance, à un quelconque manque ou alors à une quelconque imperfection. Le Coran est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, incréée et parfaite. Tabaraka wa ta'ala. Donc, dans ce hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous enseigne donc que l'on doit demander à Allah, azza wa jal, la protection contre le mal que l'on appréhende lorsque l'on fait halte dans un endroit. Tu t'arrêtes dans un endroit, tu sais qu'il peut arriver un mal dans cet endroit, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te protéger avec véracité, avec conviction. Tant que tu es dans cet endroit, aucun mal ne te touchera. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a cité dans son tafsir que dès qu'il a entendu ce hadith, il s'est mis à l'appliquer. Et à chaque fois qu'il s'arrêtait dans un endroit, il disait « A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq » jusqu'au jour où il a oublié de le dire. Une fois, il dit « J'ai été piqué par un scorpion. » Allahu Akbar. Attention, on n'allait pas comprendre que c'est une punition d'Allah, que comme il n'a pas prononcé ses paroles. Non, ce n'est pas ça. Mais il n'a pas fait à ce moment-là cette cause de protection, il n'était donc pas prémuni à ce moment-là précisément, tout simplement. Et Al-Shir al-Fawzan, Hafidhahullahu ta'ala, nous parle de ces gens-là qui malheureusement demandent au djinn la protection, demandent au sorcier la protection. Il dit فَقَدْ تَلَاعَبَ بَعْضُ الْأَشْرَارِ مِنَ الْإِنْسِ بِعَقَائِدِ النَّاسِ. Certains malfaiteurs, certains gens mauvais parmi les hommes ont joué avec la croyance des gens. وَبِأَكْلِهِ لِأَمْوَالِهِمْ. Ils ont mangé leur argent. وَبِشَعْوَذَتِهِ عَلَيْهِمْ. Ils ont fait le charlatanisme, hein, des escrocs. Elle leur a dit, je vais te protéger de telle chose, donne-moi telle somme, etc., etc. Voilà, si yama inda al-bawadi wal-qura al-ba'idati an khuduri majalis al-dhikr. Et ça, souvent, où est-ce qu'on le voit? Dans les villages, dans les vallées, éloignés des assises de science. Souvent, tu arrives dans ces endroits-là et tu trouves beaucoup de shirk. Wal-iyadu billah. Et à peu près, les gens qui sont ici, qu'ils soient issus des pays africains ou des pays arabes ou des pays asiatiques, lorsqu'ils rentrent chez eux et qu'ils visitent les proches de leur famille dans leur village, ils trouvent ces choses-là. Ils trouvent ces choses-là, malheureusement. فَإِنَ هَذَا يَكْثُرُ كُلَّمَا كَثُرَ الْجَهْلِ. Plus l'ignorance se répand, plus ces pratiques se répandent. وَحَقِيقَةُ هَذَا أَنَّهُ عَمِيلٌ لِلْجِنِ. Et en réalité, de telles personnes qui mentent aux gens, qui prétendent les protéger, connaître leur avenir, etc., sont au service des diables. وَأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et polythéistes. وَلَا يَقْتَصِرُ شَرُّهُ عَلَى نَفْسِهِ بَلْ يُضَلِّلُ النَّاسِ وَيُفْسِدُ عَقَائِدَ النَّاسِ. Et ces gens-là égarent les gens, ils pervertissent, polluent la croyance, la foi des gens. وَيَأْتِي إِلَيْهِ النَّاسُ وَيَسْأَلُونَهُ وَيُخْبِرُهُمْ بِالْمُغَيَّبَاتِ أَوْ يَأْمُرُهُمْ بِالذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ. Et ces escrocs, ces charlatans, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de la sottise de ces ignorants, de ces faibles d'esprit, et les trompent en leur demandant de l'argent, en leur demandant de sacrifier pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه مسألة خطيرة. Cette question est très dangereuse. Et il va dire ensuite, c'est pour cette raison qu'il incombe aux prêcheurs de montrer aux gens le tawhid et l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et de prendre garde à ces prêcheurs à la politique qui, au lieu d'enseigner aux gens la foi et ses fondements, au lieu de montrer aux gens comment revenir à Allah, comment l'invoquer, comment l'adorer, comment corriger sa foi, son adoration, comment être agréé d'Allah, comment satisfaire Allah, qu'est-ce qu'ils font? Alors que ces gens-là sont plongés dans le shirk, ils viennent et montent sur le minbar et ils prononcent des discours de vendredi ou à toute autre occasion en leur parlant de politique, de dunya, de choses qui n'ont pas pour ces gens-là d'importance, puisque eux, qu'est-ce qu'ils vont changer dans cette dunya? Qu'est-ce qu'ils vont changer dans cette politique? Ils sont dans un village rempli de shirk, rempli de bid'a, et toi tu viens, tu fais une khutba sur le bon comportement, tu fais une khutba sur la politique, tu fais une khutba sur le bon voisinage. De quel voisinage tu me parles alors que la personne est devant toi, elle plonge dans le shirk? Wal'iyadu billah. Ton voisin qui est devant toi, fais-lui le bon voisinage. Enseigne-lui le tawhid. Enseigne-lui les droits d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Faites attention à ces prêcheurs à l'égarement. Le Cheikh Saleh al-Fawzan a dit: Yajibu alayna an nattaqi Allah azza wa jal. Il nous incombe de craindre Allah. وأن نعلم أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة وتعليم وإرشاد وتوجيه فيما ينفع الناس. Et on a l'obligation de comprendre que la méthodologie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est le prêche, c'est l'enseignement, c'est l'orientation, c'est le fait de diriger les gens vers ce qui leur est utile. وأيضا معالجة ما وقع فيه الناس في بلدهم وفي أنفسهم. Et aussi d'essayer de trouver des solutions aux problématiques des gens dans leur pays et en eux-mêmes. أما أنك تجلب لهم مشاكل من بعيد. Quant au fait de citer aux gens des problèmes qui ont lieu dans des endroits éloignés. وتريد منهم أن يعالجوا قضية أمريكا أو قضية الجزائر أو قضية السودان. Puis tu parles avec des gens qui sont dans des contrées, qui sont plongés dans le shirk, dans l'innovation, et tu leur parles de l'Amérique, des problèmes de l'Algérie, des problèmes du Soudan. Ce n'est qu'à titre d'exemple qu'ils citent ces pays. À quoi ça sert? Voilà ce qu'il veut dire. Il dit وَهُمْ مَسَاكِينَ. Ces gens-là sont des masakin. Ils ont besoin de din, ils ont besoin de comprendre l'islam, ils ont besoin de comprendre la base de l'islam. Ma biyadayhim shay, ils n'ont rien dans leurs mains. Pourquoi tu leur parles de ces sujets-là? Wa aydan hum waqi'una fima huwa akhtar min dhalik wa huwa al-jahl wa fasad al-aqida. Plus encore, ces gens-là sont tombés dans des choses plus graves que ce dont tu leur parles, qui est la mauvaise croyance. Limadha la tu'alij hadha al-amr? Pourquoi tu ne trouves pas de solution à ce problème-là? La réponse, c'est parce que ces gens-là ne prêchent pas le prêche d'Ahl al-Sunnah. N'ont pas de passion sur la da'wah du tawhid. Ces gens-là, ils veulent du monde. Quand ils prêchent, ils veulent juste du monde. Ils ont un but. Le but, c'est pas satisfaire Allah, corriger les gens véridiquement, montrer aux gens la véritable religion. Non. Leur but, c'est, mashallah, beaucoup de gens me suivent, beaucoup de gens m'écoutent. Et c'est pour ça que tu les vois porter les meilleurs vêtements et peut-être se faire filmer, se montrer dans des beaux endroits, dans faire beaucoup de cinéma, beaucoup de spectacles. Qu'est-ce qui se passe après pour ces gens-là, si vous méditez bien? Ils tombent comme la feuille de l'arbre en automne. Et disparaissent comme s'ils n'ont jamais existé. Aucune baraka. Et qui est-ce qui reste? Ceux qui sont dans le haqq, ceux qui sont dans le Coran et dans la sunna, ceux qui sont dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Et à l'époque de l'imam Malik rahimahullah, quand il a écrit Al-Muwatta, son recueil de récits authentiques, qui avant le récit de Bukhari était le livre le plus authentique après le Coran, après le Bukhari est arrivé, a pris sa place, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit Al-Muwatta eux aussi. Ils ont écrit des livres comme l'imam Malik et ils leur ont donné le même titre. Et on a été voir l'imam Malik et on lui dit: Ya Malik, kathuratil muwatta'at. Il y a beaucoup de muwatta' maintenant. L'imam Malik a dit: Ma kana lillahi baq. Ce qui est fait pour Allah va rester. Vous parlez, aujourd'hui, quand je vous dis le muwatta', vous pensez à quoi? À Malik. Connaissez le muwatta' de tel et tel et tel? Non. Pourquoi? Parce que le vrai din te préserve. Et ces gens-là n'étaient pas dans le vrai din. Et ça, c'est ce que Ahlus Sunnah se fatigue à faire comprendre aux gens. Pendant que eux, ces gens-là, leur disent: vous nous amenez une nouvelle religion. On n'a jamais entendu ça. Dans mon village, on ne m'a jamais dit ça. Dans un pays, je n'ai jamais vu ça. Tel gourou ne m'a jamais dit ça. Et akhi, délaisse tout ça. Et à muslimoun, délaissez tout ça. Prenez le Coran. Prenez la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et ne tombez pas dans ce dans quoi sont tombés les polythéistes de Quraysh qui ont dit: ma sami'na bihada fil millatil akhira. Nous n'avons jamais entendu ça chez nos ancêtres. Ne faites pas ça, Allah les a blâmés pour ça. Si vous agissez ainsi, vous ressemblerez à Quraysh. Vous serez comme eux. Wa minan nasi man yujadilu fillah bighayri 'ilmin wa la huda wa la kitabin munir. Il y a parmi les gens certains qui polémiquent sur Allah sans science, sans guider, sans livre éclaircisseur. Et quand il leur est dit: suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils répondent: non, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Allah les a blâmés pour ça, subhanahu wa ta'ala. Et Allah et son prophète alayhi salatu wassalam nous enseignent qu'il faut sortir de l'ignorance, et c'est l'ignorance qui a conduit au shirk. C'est l'ignorance qui a conduit à la bid'a. Et c'est l'ignorance qui a conduit à la mauvaise da'wa, la da'wa des égarés, égareurs, qui au lieu de corriger, détruisent. Et rajoutent aux gens encore plus d'erreurs qu'ils n'en ont déjà. C'est pour ça que les gens de la sunna mettent en garde contre la bid'a, l'innovation, avec fermeté. Contre les innovateurs, avec science et justice, avec fermeté. Ce n'est que pour préserver l'islam originel, l'islam pur, l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comprenez ça, ô musulmans. Sallallahu alayhi wa tawfiq. Et donc, s'achève ce chapitre-là. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'aucun mal ne l'atteindra jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Et Cheikh Abdel Razak al-Badr hafidhahullah a dit: il est possible par exemple qu'une telle personne se fasse par exemple piquer par un scorpion, mais le mal de la piqûre ne fera pas son effet à partir du moment où la personne a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et s'est attachée à lui. Et ceux-ci sont nos derniers mots. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين ويثبتنا على التوحيد والسنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك